L'accord de Bougival, publié hier au Journal officiel, une publication qui marque une étape importante pour l'accord qui continue de progresser vers sa mise en œuvre concrète, explique Manuel Valls. Juliette Collet, Miss Nouvelle-Calédonie 2025. Elle succède à Emma Groussel. La jeune femme de 23 ans a été élue hier lors d'une grande soirée de gala au Méridien. Juliette Collet représentera le territoire en décembre pour l'élection de Miss France. Un enregistrement diffusé par le magazine L'Incorrect montrant une conversation entre Patrick Cohen et Thomas Legrand de France Inter et des cadres du Parti Socialiste sème le trouble. Thomas Legrand y affirme vouloir faire barrage à Rachida Dati au municipal à Paris et faire gagner le PS en 2027. Attaque mortelle de requin hier dans la matinée sur l'une des plages les plus fréquentées de Sydney. Un homme de 57 ans qui surfait a perdu la vie. Les plages de Sydney sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Le sport et le rugby, coup d'envoi de la saison 2025-2026 du top 14. Le championnat de France élite, premier choc en ce moment entre l'Union Bordeaux-Bègles et La Rochelle. Demain, le Stade Toulousain, le champion en titre, ira à Clermont. Et puis en Calédonie de la voile avec la No Woman No Sail qui continue aujourd'hui. Près de 80 participantes sont engagées sur ce rendez-vous dédié à la voile au féminin. Bonjour, très bon week-end, bon dimanche. Merci d'être avec nous. Soyez les bienvenus dans ce journal. À la une ce matin, l'accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, signé le 12 juillet à Bougival, a été publié donc au journal officiel de la République. Une publication qui marque une étape importante puisque l'accord continue de progresser vers sa mise en œuvre concrète, Michael Juneski.
Et dans une déclaration, Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, explique que la première conséquence de cette publication est, je cite, de permettre au Sénat d'examiner sa proposition de loi organique permettant le report des élections provinciales en juin 2026. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie donnera son avis sur ce texte le 15 septembre prochain, écrit encore Manuel Valls. Nous devons poursuivre sereinement les travaux institutionnels au sein du comité de rédaction et à travers des réunions bilatérales entre les différents partenaires politiques indépendantistes et non indépendantistes signataires de l'accord, écrit toujours le ministre des Outre-mer. Qui poursuit ainsi. Je poursuivrai également les discussions avec le FLNKS à l'écoute de ces propositions. L'accord pourra ainsi être éclairé et précisé au fil des discussions à venir, notamment à l'occasion de la révision constitutionnelle et de l'examen du projet de loi organique spéciale. Manuel Valls qui évoque également dans cette déclaration le calendrier après la signature de l'accord et sa publication au journal officiel. Après l'adoption de la révision constitutionnelle, les Calédoniens se prononceront sur le texte de l'accord en février 2026, écrit Manuel Valls, qui conclut ainsi cette déclaration. La Nouvelle-Calédonie doit sortir d'une impasse qui n'a que trop duré. Elle mérite la mise en œuvre d'un accord qui lui permet d'avancer sur le plan politique et institutionnel. Cette stabilité est un facteur indispensable à la reconstruction économique et sociale. Fin de citation de cette déclaration du ministre des Outre-mer, Manuel Valls, après donc la publication hier au journal officiel de l'accord de Bougival.
Une soirée de gala hier au Méridien après une pause d'un an à la suite des émeutes insurrectionnelles de mai 2024. Le concours Miss Nouvelle-Calédonie faisait son grand retour. Et hier soir, c'est Juliette Collet, 23 ans, qui est devenue Miss Nouvelle-Calédonie 2025. Elle succède à Emma Grousset qui aura porté sa couronne de Miss pendant 2 ans. Soirée d'élection suivie par Kélinda Boiscouf.
Ils étaient nombreux hier dans le public à soutenir leur favorite parmi les 8 candidates à prétendre à la couronne d'Emma Grousset. Une soirée de gala qui avait pour thème nature. Elle, ces jeunes femmes de 17 à 33 ans avaient défilé dans différentes tenues. Pour Juliette Collet, c'était une soirée chargée d'émotions.
La nouvelle Miss Nouvelle-Calédonie 2025, qui portera fièrement nos couleurs à l'élection de Miss France au mois de décembre prochain, qu'on applaudira très fort, évidemment, parce que c'est une fierté pour nous tous. Et Juliette Collet.
Beaucoup trop d'émotions, c'est une réelle fierté d'être sacrée Miss Nouvelle-Calédonie auprès de deux jolies jeunes femmes. Et puis je suis très heureuse d'avoir vécu cette aventure. Je suis très contente des rencontres que j'ai faites, de toutes les personnes qui ont travaillé autour de tout ce concours. Des filles qui étaient avec moi sur scène. Et puis c'est une aventure que je n'aurais jamais pensé vivre et finalement je suis très heureuse de l'avoir vécu. Ma maman était présente et c'était une vraie fierté. Parce que ma maman est de tout haut, de province nord, et tous les membres de ma famille n'ont pas pu être présents ce soir, mais ma maman oui, et c'était vraiment très émouvant, je pense que vous avez pu le voir.
Pour cette soirée de gala, Juliette Collet, nouvelle Miss Nouvelle-Calédonie, était accompagnée de sa maman, Solange Codemès.
Je suis trop fière de ma fille, elle avait postulé pour être la meilleure de toutes les candidates. Elle a réussi, elle est simple comme femme, très simple.
Beaucoup d'émotions.
Ouais, j'ai beaucoup d'émotions, mais je suis très fière d'elle en tout cas. Très fière d'elle, elle a vu parcourir un bon chemin et tout. J'espère que ça lui servira plus tard.
Juliette Collet, qui s'est vue remettre la couronne de Miss Nouvelle-Calédonie 2025 par Emma Grousset, qui a été l'ambassadrice de la Nouvelle-Calédonie pendant 2 ans.
Je suis vraiment très heureuse que Juliette soit la Miss Nouvelle-Calédonie 2025 et je lui souhaite que du bonheur, de rester elle-même, surtout à 100%, parce que c'est y a que comme ça qu'elle pourra pas regretter toute l'aventure qu'elle a à vivre par la suite.
Les premières et deuxièmes dauphines de Juliette Collet sont Lila Grèce Prévost et sa fille Hélène Cougnou.
Je suis remplie d'émotions, surtout que Juliette a été mon binôme durant toute l'aventure. On a rêvé de ce moment et on savait que ce serait l'une de nous deux et que Miss Nouvelle-Calédonie serait entre de bonnes mains. Je crois beaucoup au destin, donc si moi je ne suis pas élue Miss Nouvelle-Calédonie ce soir, je pense que c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre pour moi. Et donc j'ai tellement hâte de découvrir mon futur. Je suis très heureuse pour Juliette. Franchement, c'est une personne admirable et honorable. Bien sûr, toujours un petit peu déçue, mais c'est pas bien grave. On reste positif et cette aventure, elle a été vraiment incroyable. J'ai soudé des amitiés magnifiques.
C'est une grande fierté, effectivement, beaucoup d'émotions. On a vraiment passé une super soirée. J'espère qu'on vous a bien divertis. Et oui, je vais porter haut et fort les couleurs de cette écharpe. Je suis vraiment très contente.
Pour Stella Levanhao, la présidente du comité Miss Nouvelle-Calédonie, cette soirée de gala était une réussite. Le public était au rendez-vous.
Je suis enchantée de voir que le public est encore très attaché à Miss Nouvelle-Calédonie. Merci au public aussi. Merci d'avoir soutenu autant les candidates. Et on ne peut qu'apprécier. On l'appréciera avec beaucoup de silence. On a eu vraiment une très belle promotion. Et elles ont été, mais waouh, sur scène. Et les artistes aussi. Et je suis sans voix face à la qualité et la motivation. Il y a une telle passion sur cette élection. C'est important, c'est aussi notre mission de valoriser la Nouvelle-Calédonie avec une ambassadrice.
Juliette Collet, la Miss Nouvelle-Calédonie 2025, s'envolera début novembre et représentera la Calédonie à l'élection de Miss France 2026. Ce sera en décembre prochain.
Une soirée d'élection de Miss Nouvelle-Calédonie 2025 suivie pour nous par Kélinda Boiscou.
Radio Rythme Bleu, 7h08.
Et dernière journée pour le Salon Nature Maison et Déco au Parc Fayard. Le rendez-vous fermera ses portes ce soir, Michael Juneski.
Oui, un rendez-vous qui se déroule dans un cadre idéal sur la commune de Dimbéa. Même si les caprices de la météo ont donné quelques craintes aux visiteurs, la fréquentation était timide mais constante ce samedi. Et ceux qui ont fait le déplacement ont pu trouver de nombreuses choses, plantes, outillages, idées de décoration, artisanat, sans oublier les animations.
Ça passe bien, c'est grandiose, plein de plantes, tout est vert, c'est la nature quoi.
Super, c'est très joli. C'est sympa, okay, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'exposants en tout cas.
C'est bien, ça va, mais il n'y a pas trop de monde, c'est dommage avec le temps. Au moins, il ne fait pas chaud, on ne brûle pas au soleil.
C'est bien, ça s'est bien passé.
C'est agréable, on est venu pour les enfants. Et là, on écoute la musique, c'est super. Elles sont magnifiques, les plantes.
Les professionnels sont toujours heureux de retrouver ce rendez-vous pour proposer leurs produits, mais aussi donner leurs conseils aux visiteurs. Gaëtan Manou est horticulteur à la pépinière de la Tamoa.
Malgré la pluie, qui, je pense, a un petit peu freiné les gens. Sinon, il y a eu un peu de monde qui ont pris beaucoup d'aromates et des jeunes plants de légumes, surtout comme à chaque salon. Les aromates et les jeunes plants de légumes, généralement, c'est ce qui parle le mieux et qu'on essaye de faire en production, un peu plus de production.
Et près de 80 exposants sont sur place. Il s'agit de la 10e édition de cet événement. Il sera encore ouvert jusqu'à 17h aujourd'hui.
Cette info pratique avec le report du vide-grenier du centre-ville qui était prévu ce dimanche sur la place des Cocotiers. Les explications d'Aurélie Oluro, c'est la chef du service animation à la ville de Nouméa.
Le vide-grenier est reporté du coup au 21 septembre dû à une météo incertaine. Le choix du 21 septembre s'est fait parce que du coup on a le carnaval qui se passe le 13 septembre. Donc aussi pour des raisons d'organisation, c'est pour ça que ça a été décalé au 21. En général, le vide-grenier, on le décale quand en cas de mauvaise météo. C'est vrai que le vide-grenier, on le reporte souvent à la semaine suivante. Ça aurait dû être reporté au 14 septembre. Mais voilà, en raison du carnaval qui se fait le week-end d'après, on a fait le choix quand même de le reporter et non de l'annuler et de le reporter du coup au 21 septembre.
Et précisons que les réservations des stands resteront valables pour cette date du 21 septembre. Les exposants pourront toutefois, s'ils le souhaitent, demander un remboursement. Pour plus d'infos, vous pouvez contacter le Centre d'Art. C'est au 25 07 54 le 25 07 54. Bilan positif pour la matinée, portes ouvertes du CFA de la CCI. Futurs étudiants, lycéens et parents étaient invités à découvrir les formations, les programmes, mais aussi à rencontrer la direction, les équipes pédagogiques et les étudiants. Pour David Leclerc, le directeur des écoles de la CCI, ces portes ouvertes ont permis de répondre à bien des interrogations.
On est sur un bilan qui est plutôt positif, avec plus de 200 personnes qui sont déjà venues nous rencontrer, rencontrer les anciens, rencontrer les alternants eux-mêmes, les formateurs et l'équipe, avec une présentation de toutes les formations. Et on a un public qui est satisfait, qui peut découvrir toutes les formations grâce à des ateliers, des petits tests, des quiz, et surtout échanger avec les alternants qui sont présents pour savoir comment fonctionne l'alternance, comment faire pour l'intégrer, et les petites aides, les petits tips pour faciliter l'intégration au sein du CFA. En plus, les alternants ont fait un petit questionnaire de satisfaction qui permet d'avoir un retour en live. Et là, les gens sont très satisfaits en tout cas de ce qu'il leur est proposé et ça répond en tout cas à leurs interrogations.
La première campagne de préinscription pour la rentrée 2026 au CFA de la CCI est en cours. Vous avez jusqu'au 1er octobre pour éventuellement candidater. Il est 7h11. On va marquer une première pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité en métropole et dans le monde.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
Tagada, tagada! Les fraises de Païta sont là! Encore plus belles, encore plus goûteuses, avec un parfum unique et une qualité exceptionnelle. Ce week-end, on se donne tous rendez-vous aux fraisiers de Païta. Tagada, tagada! Les fraises de Païta sont là!
Les fraisiers de Païta, 3 points de vente, au 6e kilomètre, aux fraisiers de Païta et en face de la pharmacie de Sainte-Marie.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
La suite d'Info Week-end avec l'actualité en métropole, on retrouve Lionel Sabot.
Oui, cette vidéo qui sème le trouble depuis quelques heures, c'est bien le moins qu'on puisse dire. Il s'agit d'un enregistrement diffusé par le magazine L'Incorrect montrant une conversation entre les chroniqueurs de France Inter et France Télévisions, Patrick Cohen et Thomas Legrand, et des cadres du Parti Socialiste. On comprend dans les propos que les quatre protagonistes souhaitent faire barrage à Rachida Dati au municipal à Paris et faire gagner le Parti Socialiste en 2027 à la présidentielle. Nous, on fait ce qu'il faut pour Dati, Patrick et moi, affirme clairement Thomas Legrand, qui a été suspendu par France Inter à titre conservatoire. Une vidéo qui est la goutte de trop pour le groupe UDR qui demande la création d'une commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Alexis Delafontaine pour Europe 1.
Pour le groupe UDR, cette affaire est le scandale de trop et démontre une collusion entre les journalistes de France Inter et le Parti Socialiste. Alors la mission de cette commission d'enquête sera, je cite, d'évaluer d'éventuelles dérives éditoriales et de formuler des recommandations afin de renforcer la neutralité du service public. Fin de citation. Dans l'entourage d'Éric Ciotti, on assure que l'ensemble des acteurs de l'audiovisuel public seront auditionnés, c'est-à-dire la direction, mais aussi plusieurs figures emblématiques comme Delphine Ernotte, Léa Salamé ou Patrick Cohen au cœur de la polémique. Pour l'UDR, c'est une question de neutralité des services publics, mais aussi financière. Alors que l'audiovisuel public coûte 4 milliards d'euros par an à l'État, il se doit de garantir une information équilibrée, plus réaliste et non partisane, conclut Éric Ciotti.
Alexis Delafontaine du service politique d'Europe. Alors on le disait, France Inter a donc suspendu Thomas Legrand à titre conservatoire. Reste que la diffusion de cette vidéo enflamme les réseaux sociaux et les réactions politiques affluent depuis quelques heures. On fait le point avec Charles Bouchain d'Europe 1.
À commencer par les premiers concernés, les Républicains, le parti de Rachida Dati qui dénonce une collusion révoltante et se fend d'un communiqué. Si un journaliste du service public affichait une très proximité avec la droite, il serait cloué au pilori immédiatement. Fin de citation. Indignation également du côté du Rassemblement National à la députée du Var, Laure Lavalette, ce matin sur CNews.
On a assisté hier à une véritable collusion de deux journalistes avec des gens du Parti Socialiste pour faire la peau d'une candidate. Mais où sommes-nous? C'est extrêmement grave. Je vous rappelle que ces gens-là sont payés par nos impôts, sont payés par les électeurs de Rachida Dati et personne ne mérite ça.
Et au-delà du cas Rachida Dati, c'est le reste de la discussion entre les protagonistes qui irrite. Elle portait plus largement sur la situation politique et notamment celle de la gauche. Jean-Luc Mélenchon dénonce alors une vidéo consternante dans laquelle deux journalistes complotent pour valoriser un axe de Ruffin, Acanfin et Glucksmann. Le député Horizon Pierre Henriet s'interroge lui sur le rôle des deux journalistes du service public censé promouvoir la pluralité des opinions.
On voit bien qu'il y a une volonté manifeste de s'emparer de cette campagne et de appuyer leurs propos et de convaincre une certaine partie de l'opinion. Et donc là, on n'est pas du tout dans le rôle du service public.
Le PS a quant à lui tenté d'éteindre la polémique. Tous les responsables politiques, sans exception, rencontrent la presse pour faire valoir leur point de vue, explique-t-il dans un communiqué. Ils accusent en retour le média L'Incorrect qui a diffusé les vidéos d'avoir pour seul but d'entretenir une lecture complotiste du monde.
Charles Bouchain d'Europe 1. Au chapitre politique, les Républicains font leur rentrée ce week-end. 3500 militants sont réunis à Port-Marlis et dans les Yvelines, en région parisienne, autour de leur président Bruno Retailleau, dont le discours est très attendu. Ce sera ce soir pour nous, cette nuit pour nous, c'est le patron des députés LR à l'Assemblée nationale, Laurent Wauquiez, qui s'est exprimé. Laurent Wauquiez qui avait surpris en annonçant que son parti ne censurerait pas, a priori, au nom de la stabilité, un éventuel nouveau gouvernement conduit par le Parti socialiste. Au chapitre politique encore, le début demain donc d'une semaine à haut risque pour l'exécutif, à deux jours maintenant du vote de confiance lancé par François Bayrou, le sort du gouvernement semble être scellé, mais à extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon ne veut pas s'arrêter là. Il appelle une nouvelle fois à faire partir Emmanuel Macron le 10 septembre prochain, jour du mouvement Blanc-Contout.
Le 10 sera un jour d'activité populaire à la base, avec pour objectif de tout bloquer et de grève dans les principales branches d'activité du pays. Si bien que le 8, nous pensons, quant à nous, que ce sera le jour où nous ferons partir, grâce à la mobilisation populaire qui s'annonce pour le 10, le Premier ministre M. Bayrou, mais le 10, nous bloquons tout pour faire partir M. Macron lui-même, car c'est lui qui est le responsable de la crise.
Jean-Luc Mélenchon cette nuit pour nous lors d'un meeting de la France insoumise. Dans l'actualité de ce dimanche matin également, on reparle du narcotrafiquant à Mohamed Amra. Le parquet de Paris dément tout vice de procédure dans la remise en liberté de l'un de ses complices présumés. Un homme âgé de 23 ans accusé d'avoir organisé la fuite d'Amra vers la Roumanie. Il aurait été remis en liberté car sa détention provisoire n'avait pas été prolongée à temps. Vice de procédure formellement réfuté par le parquet de Paris. L'actualité dans la région Pacifique, en Australie, je vous le disais en titre, plusieurs plages de Sydney sont fermées jusqu'à nouvel ordre à la suite d'une attaque mortelle de requins. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Le drame s'est déroulé hier vers 11h du matin au large de Dee Why, l'une des plages les plus populaires du nord de Sydney. Alors qu'il surfait à environ 100 mètres du bord de l'eau, un homme dont l'identité n'était pas encore révélée hier soir a été attaqué par un large requin. Plusieurs surfeurs qui avaient été les témoins du drame se sont immédiatement portés au secours de la victime et l'ont ramené à terre, de même que deux morceaux de planche dont l'analyse pourra aider les experts des services maritimes à identifier le type de requin à l'origine de cette attaque. Le malheureux est toutefois décédé sur place avant l'arrivée des secours. Alors que les recherches maritimes et aériennes du prédateur se poursuivent, toutes les plages situées entre Manly et Narrabeen ont été fermées jusqu'à nouvel ordre. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 6h19, une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, toute l'actualité sportive et la météo de votre dimanche.
Caroline de Groisel vous invite à découvrir sa nouvelle collection intitulée « Variations en fantaisie couleur » à la galerie Artebello, rue Auguste Brun, expo jusqu'au jeudi 11 septembre, du mardi au samedi de 9h30 à 17h30. Variations en fantaisie couleur de Caroline de Groisel, ne passez pas à côté.
Jusqu'au vendredi 19 septembre, gagnez un séjour au Sheraton des Vins. Un cadeau d'une valeur de 153 000 francs, logé 3 nuits en bungalow traditionnel, petits déjeuners inclus pour 2 personnes, offert par le Sheraton des Vins. Pour jouer, c'est facile, envoyez maintenant chance au 40-20
Tirage au sort le vendredi 19 septembre à 14h. 371 francs par SMS. Ressourcez-vous dans un cadre exceptionnel au Sheraton Deva. Le resort vous accueille 7 jours sur 7 dans ses chambres, bungalows et suites avec cuisine équipée à tout petit prix. Profitez aussi de ses restaurants, du spa deep nature et du golf. Toutes les infos et actus sur la page Facebook et Insta de l'hôtel. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
L'actualité sportive, c'est la suite d'Info Weekend. On retrouve Lionel Sabot.
Eh bien, on va commencer avec du rugby, puisque ça y est, le championnat de France élite, le top 14, a repris ses droits, Michael Gineski.
Exactement, la première journée de la saison 2025-2026 pour le top 14. Ça a commencé par cette large victoire du Stade français face au promu Montauban, 47 à 24. Et puis, dans le derby du Sud-Ouest, Bayonne a triomphé de Perpignan, 29 à 26. La section paloise, de son côté, l'a emporté sur Castres, 17 à 15. Les Lyonnais se sont imposés sur le Racing 92 dans un match où Romain Taufi-Fenois, capitaine des Racing Men, affrontait son ancien club. Défaite 32 à 7 pour le Racing. À retenir encore le succès du RC Toulon à Montpellier, 27 à 17. En ce moment même, l'Union Bordeaux-Bègles fait face au Stade Rochelet, l'UBB qui doit se passer des services de Yoram Moefana, le fils du vice-président du club d'Edimbéa qui a été touché à l'épaule en préparation. Il sera absent au moins 3 mois. Notez que dès demain, le Stade Toulousain sera cette fois sur le terrain de Clermont.
Et Bordeaux-Bègles qui mène 13 à 3 dans cette rencontre face à La Rochelle. Le rugby est toujours avec le Rugby Championship, le tournoi des nations de l'hémisphère sud. La troisième journée se disputait hier en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Et on retiendra déjà la victoire importante des All Blacks sur les Springboks. Dans un choc au sommet, les Néo-Zélandais se sont imposés à domicile face aux Sud-Africains 24 à 17. Dans l'autre rencontre du jour, les Wallabies australiens ont dominé les Argentins 28 à 24. Au classement, la Nouvelle-Zélande assure sa première place. Désormais, seules deux équipes ont remporté deux matchs, les All Blacks et les Wallabies.
Le football avec la suite des qualifications au Mondial au lendemain du succès de l'équipe de France sur l'Ukraine 2-0. On retiendra aujourd'hui la très large victoire du Portugal sur l'Arménie 5-0. Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé à cette occasion. En tennis, Mickaël, c'est jour de finale à l'US Open.
Et chez les dames, c'est une affiche en ce moment même entre la Bélarusse Aryna Sabalenka et l'Américaine Amanda Anisimova. Dans le tableau, messieurs, demain matin, on retrouvera à nouveau les deux joueurs au sommet actuellement. L'Espagnol Carlos Alcaraz, après sa victoire sur Novak Djokovic, qui affrontera le numéro 1 mondial, l'Italien Yannick Sinner, pour le titre.
Et on passe au sport mécanique.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
La Formule 1 et le Grand Prix d'Italie, et c'est Max Verstappen qui a signé la pole position sur le tracé de Monza.
Le Néerlandais sur Red Bull a réussi à devancer les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri, meilleur chrono et un record sur le circuit de Monza à la clé, détenu depuis 2020 par un certain Lewis Hamilton, alors chez Mercedes. Du côté des Ferrari, cette fois Charles Leclerc s'est classé quatrième, toujours dans le bon wagon en espérant pouvoir faire mieux en course.
Personnellement, aller chercher les trois voitures devant, ça va être très compliqué. Mais bon, on ne sait jamais, un bon départ. Et ensuite, j'espère qu'on pourra regarder de l'avant et essayer de remonter sur le podium.
L'autre monoplace de la Scuderia, piloté par Lewis Hamilton, s'est classé 5e. Côté français, Esteban Ocon partira de la 15e position, juste devant Isaac Hadjar, 16e. Pierre Gasly s'est classé à 19e. Le Grand Prix d'Italie de Formule 1, c'est ce soir, dès minuit, heure de Nouméa.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacifique. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Les sports mécaniques toujours avec le Grand Prix de Catalogne de MotoGP.
Et Marc Marquez qui a remporté encore une fois la sprint race juste devant le français Fabio Quartararo. L'autre pilote tricolore, Joan Zarco, s'est classé à 7e. Lors des qualifications, c'est le frère cadet des Marquez, Alex, qui avait signé la pole position déjà devant Fabio Quartararo. Il s'élancera donc ce dernier de la première place, de la première ligne sur la grille de départ aux côtés de Marc Marquez, 3e. Un Grand Prix à suivre à partir de 23h ce soir.
Un mot de cyclisme avec la 14e étape du Tour d'Espagne. La victoire est revenue à Marc Soler en solitaire devant Jonas Vingegaard et Joao Almeida. Les deux coureurs à la lutte pour la première place du classement général qui ont terminé dans le même temps. Le Danois Vingegaard reste donc leader de la Vuelta avec 48 secondes d'avance sur son premier poursuivant. On en vient au sport sur le territoire, Michael. Et pour les passionnés de chevaux, le rendez-vous était donné à Boulot-Paris hier.
Avec la 8e et avant-dernière réunion de la saison des courses hippiques et notamment le Grand Prix de la Province Nord qui aura donné lieu à une très belle bataille. Nous avons fait le point avec Nicolas Schneider, le président de la Fédération des courses hippiques.
Bah écoutez, on a eu un dénouement magnifique. Voilà, un très beau vainqueur. Daring Choice, le cheval de Carole Roy, monté par Julien Magnez, qui l'a emporté au bout d'une ligne droite dantesque à la lutte avec Harry Potter et son camarade d'écurie Storm Dancer. Un cheval qui, ma foi, méritait d'être récompensé puisqu'il avait terminé second de cette même épreuve il y a 2 ans. Il revient en plus en ayant été mis à l'entraînement tardivement par son propriétaire parce que c'est un vrai stayer, c'est un vrai cheval de distance. Le programme qui est concentré en Nouvelle-Calédonie avec 9 journées ne permet pas d'avoir forcément des courses pour ces chevaux qui s'expriment sur des longues distances. L'histoire est belle, c'est magnifique que Daring Choice remporte pour ce petit propriétaire, je n'ai jamais dit petit propriétaire, hein, Carole Roy qui a emmené aujourd'hui 3 chevaux sur l'hippodrome et qui repart au final avec 2 victoires. Et c'est de bon augure pour des petites écuries qui ont besoin effectivement de venir chercher des gains et de l'émotion pour faire perdurer cette passion autour du cheval.
Côté public également, il y avait notamment la présence de professionnels néo-zélandais.
Oui, effectivement, donc la présence de Ian Fraser hein, de New Zealand Bloodstock, qui est une société de mise en relation de vente de chevaux en Nouvelle-Zélande, qui est toujours important pour nous, Nouvelle-Calédonie, parce que j'aime à le dire, on est proche de 2 nations qui sont puissantes en termes d'élevage et en termes de système course, et c'est toujours important de tisser des liens avec ces partenaires qui peuvent nous aider à grandir et à faire progresser nos élevages et partager cette même passion autour des courses de chevaux.
Nicolas Schneider, président de la Fédération des courses hippiques, la dernière réunion de la saison 2025, ce sera dès samedi prochain avec en point d'orgue le Grand Prix du gouvernement sur l'hippodrome Banu de la Foire.
Vous avez également du football sous le coude avec les quarts de finale de la Super League.
Et la victoire de Yengen Sport sur Magenta. Magenta qui avait pourtant terminé en tête de son groupe. C'est le dur coup du sort avec ses play-offs de la Super League cette année. Yengen qui l'a emporté 3-2 pour rallier le dernier carré. Tout comme la SC Gaïcha qui l'a emporté au bout du suspense face à Lossi. 3-2 également à l'issue de la prolongation. Aujourd'hui à midi sur la pelouse du stade Madélé, Tiga Sport retrouvera l'AS Cougnet. On rappelle que le CA Saint-Louis, grâce au barrage des derniers des poules, avait pu se hisser également en demi-finale après une victoire sur Horizon Patho aux tirs au but.
Dans le lagon à présent, la No Woman No Sail continue ce dimanche, Mickaël.
La 14e édition de cet événement organisé par l'association Défi des Filles et le Catamaran Club de Nouméa tout au long du week-end des régates en G70 et Twin 415 avec des équipages 100% féminins, le tout dans une belle ambiance. Belle opportunité notamment pour les équipages des îles venus de l'IFU ou d'Ouvéa pour se mesurer aux meilleures navigatrices du territoire.
Bah, c'était bien, le vent il est bien remonté en fin d'après-midi et on s'est bien amusé même si on n'a pas fait les meilleurs scores. On est l'équipage, il y a 3 équipages de l'IFU.
Non mais en vrai c'était bien, c'est juste qu'il y avait beaucoup de vent. Du coup les manœuvres, il fallait vraiment faire attention mais sinon c'était bien.
C'est où que vous faites de la voile?
À l'IFU, à la base de voile à Oué, la capitale. Ça change. Bah, déjà les bateaux, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis aussi l'endroit où on navigue, c'est un peu différent.
Bah, c'était très bien, les conditions étaient un peu difficiles mais c'était bien. Par rapport à l'IFU et juste comme ça être ici avec des nouveaux bateaux, ça change beaucoup.
Elle s'est bien passée, enfin, pour notre équipage à la fin un peu moins, mais sinon elle s'est bien passée. En fait à l'IFU et ici on n'a pas, pas les mêmes katas. À l'IFU c'est vraiment simplifié. Et en fait, on n'a pas de foc, on a juste un mât et la grande voile. Et en fait, ce qui change, c'était surtout les conditions. Il y avait plus de vent l'après-midi. Et je pense que c'est là où on a eu du mal.
Et près de 80 participantes sont en lice, réparties en 16 équipages. La No Woman No Sail qui se termine ce dimanche matin au large de la Côte Blanche.
Eh bien, nous allons terminer ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Aspirant Schmitt au rapport, que prévoit la météo?
Oui chef, alors nous sommes en vigilance jaune avec un vent violent, mes respects messieurs dames, dimanche pour ce dimanche après-midi et en soirée, de Poya à Belley passé qu'aux loyautés pour un vent orienté sud-est, il dépassera les 25 nœuds, des rafales prévues jusqu'à 40 nœuds aux environs de 75 km/h. Ce matin, le ciel sera souvent nuageux et ça se voit déjà sur le sud-ouest, l'extrême sud et aux loyautés avec des averses éparses qui circuleront rapidement dans le flux de sud-est. Ailleurs, les nuages et éclaircies alterneront avec de rares averses. Alors le vent pour ce matin
bien sud-sud-est, autour des 20 à 25 nœuds, et déjà bien soutenu autour des 30-35 nœuds, et 25 nœuds sur le nord-ouest en fin de matinée. Il sera plus modéré sur la côte est, entre 10 et 15 nœuds, voire moins par endroit. Cet après-midi, même si des nuages continueront de remonter dans l'Alizé, sur le sud-ouest notamment, les éclaircies gagneront partout du terrain, et les averses deviendront rares sur l'ensemble du territoire. Le vent orienté sud-sud-est monte encore d'un cran avec 25 comme prévu jusqu'à 40 nœuds sur le nord-ouest et autour des 25 nœuds, des rafales prévues jusqu'à 35 nœuds au Loyauté. On termine bien sûr par les températures. Elles seront comprises en général entre 22 et 25 degrés, Lionel.
Merci beaucoup Thierry, c'est la fin de ce journal.
J'allais dire mon capitaine.
C'est la fin de ce journal. Il est 7h30 sur Radio Rythme Bleu. Merci de nous avoir suivis. Journal qui sera disponible d'ici quelques instants sur notre site internet, le www.rrb.nc.